Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto édition du 27 juin 2020. Il fait chaud.
Il fait chaud, bien. Il fait beau. Les autos sont sorties, tout le monde est content.
Et on apprend cette semaine qu'il y a plein de petites voitures sous-compactes qui vont disparaître, à commencer par la Yaris.
Oui, exactement. Donc, c'est drôle parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps, justement, ouais, à l'émission, parce que j'en avais fait l'essai. Mais on a appris que la Yaris du côté des États-Unis, donc la Yaris berline, ne sera pas de retour pour la prochaine année. Donc, il n'y aura pas de voiture sous-compacte chez Toyota à compter de l'année prochaine, ce qui va dans la suite logique du marché actuel. Mais je suis pas sûr qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on aurait été capable de prédire ça. Du côté du Canada, l'information est peut-être un petit peu moins claire parce que notre Yaris n'est pas la même que celle qu'on retrouve aux États-Unis.
Ben, c'est-à-dire donc, que c'est une version hatchback
de la Mazda 2. Là,
mais il n'en demeure pas moins.
Et qu'elle est juste au Québec. Donc, est-ce qu'on se retrouverait avec une Yaris seulement au Québec à l'échelle de l'Amérique du Nord?
Faut être logique. Il n'y a aucun fabricant qui va fabriquer une voiture exclusivement pour le marché québécois. Et comme cette Yaris-là n'est vendue que chez nous parce qu'elle est commercialisée avec un autre design ailleurs dans le monde, sous le nom Mazda, ben c'est certain que on ne produira pas cette voiture-là que pour le marché québécois. Et de toute façon, on le voit, les ventes de cette voiture-là ne sont pas très élevés.
Non.
Ça ne rejoint pas la clientèle qui achetait des Yaris dans le passé parce que les gens le savent, ne sont pas dupes. Ce n'est pas une Toyota, c'est une Mazda. Et la voiture coûte aussi plus cher qu'une Yaris d'ancienne génération qui était une vraie Toyota. Alors,
puis on avait fait les calculs. Là, le saut vers une Corolla, la marche n'est pas très haute parce que ces sous-compacts-là, elles ne sont plus aussi vides qu'elles l'étaient auparavant. On retrouve toutes les commodités qu'on retrouve dans les autres segments, mais dans une toute petite voiture qu'on offrait à un petit prix auparavant. Donc, c'est difficile d'offrir une bonne valeur.
Et sur le plan manufacturier, faut pas oublier non plus que la Corolla est construite au Canada, ce qui n'est pas le cas de la Yaris. Alors, on préfère de beaucoup vendre au Canada des Corolla et des RAV4 qui sont bâtis chez nous plutôt que des véhicules qu'on doit importer et qui coûtent cher. Alors, la question ne se pose même pas. Et c'est la même raison pour laquelle Honda va éliminer la Fit à compter de 2021. Moi, j'avais assisté l'automne dernier au Salon d'Auto de Tokyo au dévoilement de la nouvelle Honda Jazz, qui est notre Fit, qui est une Fit vendue sous le nom Jazz au Japon. Et quand j'ai vu le produit, je me suis dit, oui, pas certain que ça va venir chez nous. Puis c'est pas un produit qui est adapté nécessairement au marché actuel. Oui, on conserve un peu le même format, mais disons que l'approche est un peu différente. Et si on regarde les chiffres de vente de Honda avec la Fit, au Québec, ça se vend correctement, pas comme ça a déjà été, mais les ventes sont quand même correctes. Mais encore là, c'est la même chose. On vend ça le même prix qu'une Civic ou à peu près.
Oui, sur le plan financier, c'est très difficile à justifier.
Puis aux États-Unis, l'année passée, on a vendu à peine 35 000 Fit pour le marché américain tout entier. Alors que si on regarde ça, ben il faudrait en vendre, on va vendre quoi, 10 fois plus de Civic, là.
Voilà.
C'est une question qui se pose même pas, sans compter qu'il faut qu'on les importe, ces voitures-là aussi. La Civic, bien sûr, est produite au Canada et aux États-Unis, donc ça règle la question.
Et si on se met dans la peau des gestionnaires de Honda, par exemple, est-ce qu'on est capable de se dire que les anciens acheteurs de Fit pourraient faire le saut vers un HR-V, par exemple, ou même la Civic? C'est pas difficile à imaginer, là.
Ben, en fait, c'est certain qu'on va prochainement renouveler le HR-V, qu'on va le rendre plus versatile dans son approche. Donc, on risque d'avoir des versions qui sont plus agressives au niveau des prix, des versions qui sont plus luxueuses aussi. Ça, l'avenir nous le dira. On renouvelle la Civic également très prochainement, parce qu'il faut pas oublier que la Civic...
Le temps passe vite, quand même.
La Civic date de 2016. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est avec nous. Donc, prochaine génération de la Civic, on pourrait l'avoir dès 2021. C'est pas impossible. Sinon, 2022. Alors... Alors, soyez pas surpris que la Fit disparaisse, elle aussi. Mais j'ai l'impression que et la Yaris et la Fit, ce sont des voitures qui, sur le marché d'occasion, vont garder une excellente valeur.
Parce qu'on sait que c'est des véhicules extrêmement fiables, extrêmement durables, économiques, sur tous les plans.
Et donc, surtout, il n'y en aura plus.
Exactement.
Il n'y en aura plus sur le marché. Il y a Hyundai Kia qui est encore là, mais
voilà.
Là,
c'est puis Chevrolet avec la Spark, on compte les jours. Là.
C'est ça. Voilà. C'est sur le respirateur artificiel. Alors, puis tu sais, chez Chevrolet, on se vante qu'on a une augmentation de vente de Spark depuis une année ou deux. Oui, mais vous avez éliminé la Cruze, éliminé la Sonic.
Voilà, donc c'est ça. On n'a pas vraiment le choix.
Bon, on s'en va dans une autre catégorie de véhicules. Parlons du Ford F-150. Qui est en fait dévoilé...
Au moment où vous écoutez l'émission, ça a été dévoilé, mais il y a un petit délai entre l'enregistrement et la diffusion.
On a certains détails, donc on sait qu'on va avoir un F-150, bon, partiellement redessiné au niveau de la partie avant, etc., qui reprend un petit peu le look d'un Super Duty. Là, sur certaines lignes, ça a vraiment une belle gueule. Moi, personnellement, j'aime bien. Puis la grande nouvelle, c'est qu'on arrive avec une version hybride. On utilise le groupe propulseur de l'Explorer hybride. Ce fameux Ford Explorer dont on entend tant parler, mais qu'on
ne voit
jamais.
Le fantôme. Le fantôme.
Alors, est-ce qu'on va en bâtir des F-150 hybrides? Est-ce qu'on va être intéressé à en vendre? Est-ce qu'on va te les vendre au même taux d'intérêt qu'on va le faire avec des moteurs V8?
C'est des questions très intéressantes.
Parce que Ford, on en offre des hybrides, mais on dirait qu'on n'est pas intéressé à les vendre. Alors ça, j'ai hâte, seul l'avenir le dira encore une fois, mais l'Explorer hybride actuellement, vous en voulez un? Ben, peut-être le concessionnaire va être en mesure de vous en vendre un, mais à quel prix? C'est pas très drôle, c'est pas très jojo. L'Escape hybride, par contre, c'est un produit qui est un peu plus convaincant. Et vous aurez la chance de lire davantage d'informations dans le
prochain... Un peu plus convaincant que la version à trois cylindres. Tu sais, c'est pas dur à battre.
Plus convaincant que la version à trois cylindres et surtout que le premier Escape hybride.
Oui, hein, bien entendu.
Il faut quand même se souvenir ça. Parce que ça a été le premier qui a amené technologie hybride. Tous les taxis new-yorkais utilisaient ça. C'était incroyable. Et jamais la batterie est en fonction parce que les chauffeurs de taxi ont tout le temps le pied au fond dans les rues de Manhattan. Donc, ça consommait quand même 19 litres au 100, un Escape hybride.
Ce qui était une économie par rapport aux anciens Crown Vic.
C'est ça, on s'en va ailleurs. Bon, parlons de 19 litres au 100. Ram Rebel TRX.
Ben oui, parce que tu sais, c'est bien beau, hein, les voitures hybrides et les voitures électriques, mais chez FCA, on fonce tout droit dans le mur, c'est-à-dire qu'on présente une version Rebel TRX du Ram, c'est-à-dire une version finalement L4. Là, donc, on va avoir le V8 suralimenté de 700 quelques chevaux. On n'a donné aucun détail encore chez FCA. On nous a simplement dit que ça allait arriver à la fin de l'été 2020. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ça devrait être une machine assez spéciale.
Moi, je me souviens avoir conduit, Germain, un Ram SRT10 boîte manuelle sur le circuit du Mont-Tremblant à très haute vitesse. Et je peux te dire que c'était inconduisible.
J'imagine.
C'était comme conduire un spa. Oui. Sur quatre roues.
Avec une répartition des masses et un centre de gravité.
C'était épouvantable. Le levier de vitesse était celui d'un autobus scolaire, mais il y avait quand même un certain plaisir à exploiter.
Je suis sûr que tu avais un grand sourire au visage.
Oui, c'était très, très drôle. Essayer de garder ça sur la route, c'était un beau défi.
J'espère pour toi aussi qu'il faisait beau, hein, parce qu'à la pluie, ça doit être quelque chose aussi.
Oui, c'est sûr. On trouvait que c'était très puissant, là, cette machine-là à l'époque, mais là, le nouveau Ram aura 300 chevaux de plus.
Oui, mais c'est pas la même configuration.
Non,
là.
Non, c'est pas
un V10 puis un V8 suralimenté, c'est ça.
Tant que tu voudras.
Voilà.
On parle du Kia Seltos. Ça, on en voit déjà pas mal sur les
photos. Oui, et ils sont tous la couleur...
jaune moutarde.
Jaune moutarde métallisé brillant. Là.
Et, ça fait changement du gris, du noir, du blanc.
Oui, ça, on peut pas dire le contraire. Et il y a des rumeurs quand même assez sérieuses et crédibles même, je dirais, sur la venue d'une version électrique, donc du Kia Seltos. Il y a déjà le Kia Soul, il y a le Kia Niro, hein, dont l'avenir est incertain. Ouais, là, voilà. Et chez Hyundai, on a une autre copie, c'est-à-dire le Kona EV. Donc là, ça ferait 4 petits VUS pas mal pareil. Je sais pas ce qui va advenir de tout ça.
Ben, est-ce que le Le Seltos risque de plaire justement à une clientèle qui ne veut pas acheter le look de la Soul. Et comme la Niro, c'est probablement pas un produit qui est appelé à rester très longtemps, bien, la Seltos pourrait remplacer ça tout simplement. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois.
Ouais.
Mais en toute logique, je pense que le Seltos, si ça arrive en version électrique, ça risque d'être assez intéressant, comme le Kona électrique,
ouais,
en espérant seulement que les prix soient un peu plus raisonnables, parce que c'est pas donné un Kona électrique.
Oui, puis quand on fait les calculs à 1$ et quelques le litre d'essence, le Kona électrique paraît encore plus cher.
Oui, oui, ça c'est sûr. si tu le compares à un Kona à essence, ça c'est évident.
Voilà.
Véhicule de la semaine, mon Germain,
oui,
c'est filet familial.
Oui, exactement. Donc, je voulais me promener en autobus cette semaine et c'est ce que j'ai fait. J'étais au volant d'un Ford Transit Connect, mais pas une version cargo, une version passager, donc qui peut accueillir justement 6 passagers. C'est très spécial à conduire, ça ressemble à rien d'autre, parce que oui, c'est un petit fourgon finalement, mais t'es assis très bas, le centre de gravité est très bas, mais le dégagement pour la tête, lui, ne finit plus. Tu pourrais transporter une tour Eiffel, je pense, sans la mettre de côté, puis ça rentrerait, tu sais. Mais
c'est un véhicule excellent pour les têtes enflées.
Ah, oh, voilà. Donc, sur le plan de la mécanique, c'est pas génial. Là, moi, j'ai pas transporté.
C'est une Focus.
Exactement. Donc, et moi, j'ai pas transporté plus qu'une autre personne. Et cette personne-là était toi-même. Et j'ai pas transporté non plus de grandes charges là, parce qu'on sait que c'est les versions cargo surtout servent à transporter toutes sortes de choses.
Ouais.
Mais franchement, c'est loin d'être puissant. Puis on sait que la transmission automatique, qui était très problématique avec la Focus, ben c'est la même qu'on retrouve dans le Transit. Donc, c'est difficile de lui prévenir, de lui prévoir un avenir très, très glorieux.
Oui, ça,
c'est ça. Et un petit mot sur le prix, hein, quand même, parce que ce serait très grave de ne pas le mentionner. La version que j'avais, c'est-à-dire...
Titanium,
donc avec le cuir en vinyle et
du
vrai faux cuir. Et les longerons de toit gris, les petits mags et...
Le toit panoramique
qui ne finit plus de finir. Tout ça, ça vaut 46 000 $
Correction, ça coûte.
Ça coûte 46 000 $
Ouais.
Fait que la réponse est, si vous voulez un petit fourgon, oui. Mais si vous voulez une camionnette, parce que c'était la version... Une mini-fourgonnette, c'est-à-dire, ben allez donc voir ailleurs, parce que c'est...
D'acheter... de toute façon, là, on le sait, tu assistais cette semaine, puis... Peut-être qu'on peut en parler d'ailleurs. J'assistais cette semaine.
Il y a un embargo qui est encore en jeu, là.
Bon.
Mais j'assistais à la présentation québécoise de la Toyota Sienna. On n'a pas pu conduire les véhicules pour le moment, mais on pourra en glisser quelques mots la semaine prochaine sans risquer de se faire taper sur les doigts.
Bon, ben de toute façon, on sait que c'est une version hybride qui va arriver sur le marché.
Oui, à deux roues motrices ou quatre roues motrices,
c'est ça,
mais hybride de A à Z
de
pour
A
la
Z,
gamme.
Plus de V6, c'est fini. Et ce qu'on a annoncé aussi cette semaine, c'est que la Kia Sedona va aussi se renouveler et elle aussi proposera une technologie hybride. Alors, je pense que le marché de la fourgonnette se dirige...
Chez Honda, on doit se regarder puis se demander qu'est-ce qu'on va faire. Hein?
Ça serait le fun aussi qu'on engage un autre designer pour la prochaine Odyssée.
Oui.
Ça, c'est une autre histoire, mais, mais ça demeure l'Odyssée quand même un produit qui est exceptionnel là, en termes de valeur, puis etc.
Oui, mais si la Sedona arrive avec une version hybride, si la Sienna aussi, et que la Pacifica a une version hybride rechargeable, et que chez Honda, on a les bras croisés et on propose un bon V6.
Oui, puis là, bon, on sait que Toyota et Chrysler ont aussi des versions 4 roues motrices.
Oui, exactement.
Kia, c'est pas confirmé, là, j'ai pas vu de note à ce sujet-là. Mais enfin, oui, il va falloir que Honda s'ajuste à ce marché-là. Marché qui est très stable, d'ailleurs.
Le marché
de la fourgonnette, il n'y a pas beaucoup de joueurs.
Si on exclut la grande caravane, c'est stable.
Oui.
Parce qu'elle a perdu des plumes, donc elle fait descendre le marché. Mais outre la caravane, la grande caravane, c'est-à-dire, c'est très stable.
Bon, moi, de mon côté, cette semaine, j'ai conduit un véhicule dont on va parler un peu plus tard. Et j'espère que M. Boutin n'écoutera pas, parce qu'on va recevoir en deuxième partie d'émission Pierre Boutin, qui est président et chef de la direction du groupe Volkswagen au Canada.
Un Québécois de Québec.
Oui, exactement. Mais qui a fait le tour du monde avant de se retrouver...
Voilà.
À
la maison.
À la maison. Moi, cette semaine, j'ai conduit le Volkswagen Atlas Crossport. Non.
Non, hein?
J'ai pas aimé ça.
Non.
J'ai pas aimé ça. inutilement gros à l'intérieur, très spacieux. Les enfants, que ce soit à l'arrière, là, ou qu'importe qui se prend place à l'arrière, l'espace est incroyable. Bon, c'est la même technologie que le Atlas régulier. Le look, moi, je trouve ça complètement raté, mais c'est une question de goût, encore une fois. J'ai pas le choix d'admettre que au niveau dynamique, c'est quand même un camion qui a une direction plus intéressante, puis une suspension...
Par rapport au Atlas régulier,
par rapport à ce que tu vas retrouver chez la compétition, okay. C'est quand même plus nerveux et intéressant qu'un Murano, qu'un Edge okay. régulier, qu'un Sorento, par exemple. Mais il en demeure pas moins que c'est du 100% américain. On a coupé dans la qualité à des endroits où tu peux pas t'imaginer. Et tu t'installes à bord, t'as des plastiques qui sont coussinés en avant, t'as une position de conduite qui est intéressante, mais t'as tellement d'espace que t'as de la misère à appuyer tes bras à gauche, à droite. Mais quand tu vas prendre place à l'arrière, là, c'est une finition digne d'une Pontiac Montana 98.
Donc, on a coupé...
C'est effrayant. Ouais. Donc, là, on
a... J'avais observé ça dans d'autres produits Volkswagen aussi. Ouais. On met ça beau et propre à l'avant, mais t'es mieux de pas prendre place à l'arrière.
Bon,
là.
En même temps, qui achète ça? Et puis l'autre affaire, c'est que c'est quand même un véhicule de 54 000
$. Ben voilà, là, c'est pas une Jetta de base. Là.
Non. Puis on l'offre avec le 2 litres turbo. Je serais curieux d'essayer cette version-là parce qu'on en dit, ceux qui l'ont conduite jusqu'à date me disent que c'est un équilibre intéressant. Mais celui que j'ai conduit, c'est avec le VR6, la 8 vitesses. 4 roues motrices, évidemment, 54 000 $. C'est beaucoup de sous pour un camion de ce genre-là, mais les prix n'arrêtent pas de monter chez les manufacturiers, alors il ne faut plus s'étonner de factures de ce genre-là. Ouais. Bref, moi, j'ai vraiment pas été impressionné. Consommation d'essence raisonnable, autour de 10,5 litres au 100 km, mais rien pour impressionner. Puis ceux qui pensent remplacer un Touareg par ce
produit-là, mon Dieu,
on est complètement ailleurs.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, avec nous aujourd'hui, le président et chef de la direction de Volkswagen Canada, Pierre Boutin, qui est avec nous. Bonjour, Pierre.
Bonjour, messieurs.
Bienvenue parmi nous.
Bon, évidemment, on a une foule de questions pour répondre aux questions des amateurs de Volkswagen. Mais évidemment, avant toute chose, peut-être si vous voulez nous parler de votre parcours jusqu'au poste que vous occupez présentement chez Volkswagen Canada.
Écoutez, j'étais très choyé à travers les années. Ça fait une trentaine d'années. J'ai arrêté de compter à 30. Que je suis dans l'automobile. J'ai les premières années de mon expérience, ça s'est passé avec un manufacturier américain, où j'ai même travaillé en Allemagne pour ce manufacturier. Et au Canada, j'ai eu des chances extraordinaires dans les ventes, dans l'après-vente, dans la distribution de pièces, dans le marketing. En tout cas, bref, plusieurs étapes importantes, très formatrices aussi. J'ai eu la chance par la suite de passer chez un manufacturier japonais, où on m'a donné la responsabilité d'être DG de cette marque au Québec, d'ailleurs. Okay. Donc, là, c'était vraiment une très, très belle expérience aussi. C'était une transformation importante pour ce manufacturier-là, à ce moment-là, où il y avait beaucoup, beaucoup d'investissements sur le produit, etc. Donc ça a été très formateur aussi. Et avec ce manufacturier, on m'a demandé de passer sur le vieux continent, où j'ai été... j'ai pris en charge l'entreprise dans l'Europe centrale, okay. Plusieurs pays de l'Europe centrale. On travaillait sur des plaques à ce moment-là. Et on m'a donné aussi après ça la responsabilité de l'Europe de l'Ouest. Donc, j'ai été en France pendant quelques années. Et j'ai fait le saut chez les Allemands, dans le fond, aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec Volkswagen depuis quelques années. Ma première étape, ça a été en Russie, juste au même moment que la crise a éclaté. Le marché est tombé de 50%. Le rouble s'est dévalué. Ça a été toute une expérience d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et finalement, je suis retourné un peu en France pendant quelques temps. Et bon, l'opportunité de revenir au Canada, chez moi, est tombée sur la table. Puis bon, finalement, pour plusieurs raisons, notamment personnelles, mais aussi professionnelles, parce qu'il y a des super beaux défis avec avec le groupe Volkswagen et la marque Volkswagen au Canada. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. Donc, depuis le 1er janvier, je suis de retour.
Ben, vous faites la transition merveilleusement bien avec la question que j'étais sur le point de vous poser. Justement, comme nouveau PDG d'un grand groupe comme celui qu'est Volkswagen, quels sont vos défis, buts et objectifs, disons, comme PDG de Volkswagen?
Dans un premier temps, ce qui est hyper important pour nous, c'est de développer les marques du groupe au Canada. Donc, on travaille conjointement ensemble pour arriver à maximiser, évidemment, la performance de notre entreprise sur le marché canadien. Et c'est d'arriver aussi, quand on regarde ça, ce qui est très important, Volkswagen, le groupe, est leader en Europe. On est leader en Chine, deux marchés absolument importants. On fait de très belles percées sur le continent de l'Amérique du Sud. Ouais. Et évidemment, il y a toujours le fameux marché nord-américain. Donc, pour nous, c'est hyper important d'un point de vue stratégique de se développer beaucoup plus rapidement sur le marché nord-américain qu'on l'a fait au cours des dernières décennies. Et par rapport à ça, il y a la transformation de la marque Volkswagen. Et la transformation de la marque Volkswagen, pour moi, ce qui est important, il y a deux éléments clés. Le premier élément, c'est de pousser le développement des SUV. Présentement, on en a trois, on en aura cinq au cours des prochains mois. Donc, finalement, d'arriver avec une ligne très, très, très développée du point de vue des SUV. Puis, dans un deuxième temps aussi, en parallèle, c'est de développer l'électrique, qui est devenu un élément très important pour la marque Volkswagen, pour l'entreprise du groupe Volkswagen. Évidemment, on mise beaucoup sur l'électrique pour le futur.
Vous parlez du marché du VUS qui est super important sur le marché nord-américain. On sait que Volkswagen actuellement a choisi évidemment d'éliminer le Touareg, par exemple, ouais. pour offrir un produit qui est conçu pour le marché nord-américain, par les Nord-Américains. Est-ce que vous avez des intentions de peut-être ramener le Touareg qui avait quand même bonne réputation ici sur notre marché?
Il faut dire, le Touareg, ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver à s'adapter à ce que le marché désire, à ce que les consommateurs recherchent. Donc, par rapport à ça, il faut la regarder parce que l'évolution du Touareg, le Touareg qu'on a lancé en Europe il n'y a pas si longtemps, ouais. C'est pas nécessairement le même créneau du Touareg qu'on avait par le passé. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on voit en Amérique du Nord, les gens ont besoin d'espace, beaucoup d'espace. Il y a la question d'avoir un prix d'appel qui est juste aussi.
Ouais, exact.
Et faut arriver aussi parce que pour arriver à percer sur le marché nord-américain, on fait d'énormes investissements du point de vue manufacturier parce que sans avoir d'usine en Amérique du Nord, avec les taux de change, avec la question des normes environnementales qui sont différentes d'un continent à l'autre, ça devient pas économiquement faisable. Et l'élément suivant, c'est qu'il faut rester vrai aux consommateurs, aux fans de la marque Volkswagen. On veut leur apporter cette qualité allemande, la grande valeur de la marque et un plaisir de conduire. Donc, oui, il y a des choix à faire, il faut s'adapter. Et par rapport à ça, je vous dirais que dans l'avenir très rapproché, on ne voit pas absolument pas le retour du Touareg parce qu'une fois de plus, le positionnement a été changé avec le nouveau Touareg. On pense qu'avec la gamme, évidemment, Atlas, qu'on a lancé, et le Crossport, qui est un dérivatif, si on veut, ouais. Un dérivé du Atlas, c'est vraiment au goût des Nord-Américains. Maintenant, c'est sûr que c'est des véhicules qui ont un très gros gabarit. Et ça, c'est une chose, donc ça ne plaît pas nécessairement. Je sais qu'au Québec, évidemment, ce n'est peut-être pas les véhicules les plus primés, ce qui fait en sorte que là, on continue à développer notre marque des vues, justement, et on aura un plus petit vue qui va faire son arrivée au cours des prochains mois.
Qui deviendrait l'entrée de gamme des VUS, finalement.
Exactement. Okay. Qui serait, dans le fond, le petit frère du Tiguan d'aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, par rapport à ça, on voit qu'il y a une belle percée qui est potentiellement accessible pour nous. Il y a un beau volume. Les gens recherchent ce genre de véhicule-là. Il y a plusieurs personnes qui délaissent les véhicules, le véhicule régulier, si on veut. On va continuer à pousser très fort sur notre gamme Golf, la gamme Jetta, ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais quand même, il faut s'adapter et les gens recherchent de plus en plus de SUV. Donc, on aura une gamme encore plus encore plus étendue de SUV chez Volkswagen au cours des prochains mois.
Vous nous avez rappelé qu'on avait 3 VUS actuellement dans la gamme. Là, vous nous avez dit qu'on arriverait avec 5 éventuellement. L'un d'eux, ça va être un petit VUS qui pourrait prendre la forme d'un T-Roc, par exemple. Le cinquième, ça va ressembler à quoi?
Ben, le cinquième, c'est le ID4, qui est dans le fond notre véhicule 100% électrique, qui est donc un VU, qui va faire son entrée au printemps prochain. Donc, très important, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour nous, la transformation de la marque Volkswagen passe à travers une ligne VU beaucoup plus étendue que qu'est-ce qu'on a offert par le passé, et en même temps de transformation électrique, où on veut prendre un positionnement très, très important pour la marque, avec des investissements conséquents aussi du point de vue de l'assemblage de ces véhicules sur le sol américain.
Évidemment, les produits sont très importants pour un constructeur comme Volkswagen, mais il y a aussi le réseau de concessionnaires qui est en train de se renouveler. Comment les concessionnaires se portent-ils dans le contexte de la pandémie et ceux qui ont investi des sommes massives pour des renouvellements de bâtisses, des nouvelles images, est-ce qu'on est quand même capable de passer à travers cette tempête-là? Parce qu'il y en a qui ont souffert énormément, là.
Ah, écoutez, c'est un gros bouleversement pour toutes les entreprises présentement, mais ce qui se passe, ça, c'est sûr. Et c'est vrai aussi pour l'automobile. Les concessionnaires ont fait des miracles. Je lève mon chapeau. Ils ont travaillé très, très, très fort pour maintenir leurs opérations, maintenir les emplois partout aussi, dans toutes les concessions, au maximum qu'ils pouvaient le faire. Et ça, c'est très important parce que, comme vous savez, les concessionnaires, de façon générale, ont un apport économique très important pour toutes les régions dans lesquelles ils investissent. Donc, ils ont fait un super travail. Maintenant, ça nous donne des opportunités. Vous savez, toute crise apporte des opportunités importantes. Il y a quelqu'un qui disait, faut pas laisser aller aux poubelles les crises parce qu'on peut toujours construire des choses positives. L'élément suivant, c'est que là, il y a une opportunité réelle. Vraiment, les gens l'ont bien compris, sur le développement du digital.
Ben oui.
Et sur le monde virtuel, pour arriver à offrir une nouvelle approche à clientèle. Et les gens sont demandants. Et je dois dire, dans l'automobile, de façon générale, on était un petit peu dernier de
temps. Conservateur, ben oui.
Ouais, conservateur, disons-le. Et donc, je pense que là, les gens ont bien compris. On fait énormément d'investissements dans ce sens. On travaille étroitement avec le réseau de concessionnaires. Parce que ce que j'aimerais peut-être ajouter, qui est très important, chez Volkswagen, on croit au digital, mais on croit aussi à l'environnement physique. Donc, on appelle ça plutôt, c'est du figital. C'est d'arriver de dire que le client choisisse de faire 100% ses affaires avec le concessionnaire en ligne ou directement en concession, il pourra le faire dans une année rapprochée chez Volkswagen. Et c'est très important, il faut que c'est au client à décider finalement. Et on doit s'adapter à tout ça. Je pense que c'est la plus grande opportunité ou l'une des plus grandes opportunités de cette crise. Et une fois de plus, je lève mon chapeau, les concessionnaires ont fait un travail exceptionnel. Et comme manufacturier, notre engagement, c'est de protéger aussi ces entreprises-là la meilleure façon qu'on puisse le faire. Donc, on travaille excessivement en proximité présentement avec le réseau de concessionnaires. C'est important que ces investisseurs-là continuent à progresser. Ils sont un apport économique important. Puis, en fonction du développement qu'on veut faire chez Volkswagen, on a besoin d'eux. Puis, on compte sur eux. Donc, c'est du partenariat qui est très important.
Le fait que Volkswagen Canada ait toujours été capable de se différencier un peu de son homologue américain, ça m'a toujours un peu impressionné parce qu'on a quand même réussi à avoir des nomenclatures, des produits, des approches qui étaient différentes des Américains. Est-ce que Volkswagen a encore plus de latitude que par le passé pour que des décisions soient prises directement avec l'Allemagne plutôt que d'être dépendant de ce qui se passe aux États-Unis?
Écoutez,
considérant que les marchés ne sont pas les mêmes, évidemment.
Oui, oui. Vous savez, c'est ça, ce sont des choix qui sont toujours importants de dire il faut arriver à offrir à la clientèle une belle valeur, ce que les gens recherchent. Ce n'est pas nécessairement toujours un véhicule qui est 100% européen ou un véhicule qui est 100% américain ou nord-américain. Les Québécois le savent bien, on a des particularités, il y a des goûts particuliers chez nous. Et donc, il faut arriver à s'adapter à tout ça. Nous avons des équipes dédiées justement pour le marché canadien et on regarde toutes les opportunités, non seulement en Europe, mais partout à travers le monde. Est-ce qu'il y a des véhicules qu'on pourrait arriver à commercialiser ici avec une valeur ajoutée pour la clientèle et qui, économiquement parlant, ça peut être viable à la fois pour le réseau de concessionnaires, à la fois pour nous. Et on continue toujours à regarder ces opportunités-là. C'est sans cesse qu'on regarde ces plans-là. Il y a des investissements parce que, encore une fois, on veut continuer à développer le marché ici. C'est important qu'on ait une présence plus importante au cours des prochaines années que qu'est-ce qu'on a eu par le passé.
Vous le savez peut-être pas, mais Antoine et moi possédons tous les deux une Volkswagen du passé. Oui. Et on est des adeptes de conduite, disons intéressante. Et en voyant la gamme actuelle de Volkswagen qui tend à s'américaniser, croyez-vous que les adeptes de, pas nécessairement de la première heure, mais les adeptes du passé de Volkswagen sont partis finalement?
Dans un premier temps, merci beaucoup, messieurs. Je suis heureux de voir que vous êtes des adeptes de la marque. Je peux vous demander qu'est-ce que vous conduisez, quel genre de voiture vous avez?
Moi, j'ai deux Volkswagen à la maison qui est un.
C'est vrai, t'en as deux, toi?
Un Touareg à moteur V8 et une Corrado G60.
Ben, de mon côté, c'est une Jetta GLX VR6 98.
Merci beaucoup d'encourager la marque.
Mais il n'y a plus beaucoup de pièges chez les concessionnaires. D'ailleurs, on voulait vous en parler.
C'est quoi, la Corrado, c'est pas en 1970, 69, dans ces années-là?
C'est en 91.
Ah, OK, OK. l'aspect des véhicules, on aura toujours un ADN allemand, un ADN qui est définitivement de souche européenne. Ça, c'est important pour nous. Encore une fois, il faut s'adapter au goût nord-américain. Les nord-américains, c'est vrai aussi au Québec, les gens recherchent de l'espace, les gens recherchent des véhicules qui ont un plaisir de conduire. Je pense que c'est là où Volkswagen peut arriver à bien jouer ses cartes. Encore une fois aussi, il faut arriver à développer des véhicules qui où on peut avoir un certain volume. Parce qu'il y a toujours la question d'arriver à pouvoir à construire ces véhicules-là en Amérique du Nord. Et ce faisant aussi en même temps, on arrive à, encore une fois, à faire certains choix pour la gamme de produits qu'on aura dans le futur. Mais croyez-moi, chacune des opportunités sont regardées. On a l'opportunité de faire venir des véhicules un peu partout à travers le monde. Et il n'y a personne qui met les bâtons dans les roues pour ce faire. Donc, on aura une gamme toujours très intéressante avec beaucoup d'électrique à l'horizon au cours des prochaines années. Ça, c'est un élément, encore une fois, essentiel de l'ADN de la marque Volkswagen.
On comprend très bien que le marché de la berline intermédiaire est en chute libre. Aux États-Unis, peut-être un peu moins que chez nous, mais chez nous, c'est drastique, c'est même violent comme chute. Et on comprend pourquoi la Passat qui est vendue en Europe n'est pas la même que celle qu'on nous offre ici, pour un paquet de raisons, mais principalement pour une question manufacturière et financière. Maintenant, est-ce que vous voyez un avenir en ce genre de véhicule-là pour le marché nord-américain? Vous avez la Passat, vous avez l'Arteon aussi, qui est un produit intéressant, mais qui évidemment est très timide au niveau des ventes. Est-ce que vous voyez un avenir pour la berline traditionnelle sur le marché nord-américain?
Il faut dire que ce n'est pas des véhicules qui sont en croissance. Ce n'est pas une gamme c'est pas des gammes qui sont en croissance, dans le fond, ces berlines-là. Les gens les ont laissés aller pour des VUS, des VUS. Ouais. Et c'est un peu, bon, encore une fois, c'est toute la question de fonctionnalité et tout ça. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Maintenant, il y a l'aspect, évidemment, de la voiture. Il y a le côté esthétique, il y a le plaisir de conduire. Et ces éléments-là, on recherche toujours des gens qui sont très intéressés. Donc, c'est là où il faut arriver à pouvoir travailler sur les deux terrains. Ce qui est intéressant chez Volkswagen, c'est que justement, avec les investissements qu'on fait, on a une possibilité de jouer sur les deux côtés. Sachant pertinemment qu'à court terme, depuis quelques années, puis on le voit encore dans un horizon pour les prochaines années, les VUS vont continuer à progresser. D'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que le premier VUS qu'on aura, plutôt le premier véhicule 100% électrique après la e-Golf, ce sera un VUS avec la ID.4. On continue à regarder ces opportunités-là. Le marché pourrait arriver à changer. On ne sait jamais. Ceci dit, on ne le voit pas à court terme. C'est définitivement, encore une fois, les vues ont le haut du pavé. Puis, ça va prendre aussi, vous savez, il y a la question environnementale qui est importante à souligner.
Bien sûr.
On essaie de plus. Donc, est-ce que les réglementations ne feront pas en sorte que il y aura des changements importants dans l'avenir de la segmentation, puis peut-être qu'on pourra compter un peu plus sur ces berlines-là. Je crois que ça pourrait arriver. Donc, on aura toujours cette opportunité chez Volkswagen d'aller puiser des berlines un peu partout dans les gammes de produits qu'on a à travers le monde.
Vas-y, vas-y. Vous avez parlé à quelques reprises comme quoi l'avenir était électrique. Bon, est-ce que les concessionnaires sont prêts, sont équipés à recevoir cette nouvelle gamme de véhicules-là électriques? Et surtout, est-ce qu'ils sont motivés à vendre ces véhicules-là? Ou pour eux, vendre des Atlas à essence à la douzaine, c'est leur plan?
Parce que j'ajouterais à tout ça que la plupart des marques qui ont débuté la vente de véhicules électriques de façon plus massive, je pense aux Coréens, entre autres, à Nissan, on était très rébarbatif au début à vendre des véhicules électriques. On tentait de convaincre le client que c'était pas ce qu'il lui fallait. Alors que là, tranquillement, au Québec, bien sûr, à cause des subventions, les choses sont en train de changer, mais c'est peut-être pas la même chose à l'échelle nord-américaine. C'est tout un défi que de décider d'arriver avec une gamme complète de véhicules électriques, puis surtout de convaincre les concessionnaires que c'est la bonne chose à faire.
Vous savez, l'élément est suivant. Je crois que c'est des changements, des transformations aussi profondes. C'est tous les intervenants qui doivent arriver à jouer un rôle. La transformation vers l'électrique, nous, comme manufacturier, on peut arriver avec des véhicules électriques. C'est ce qu'on fait. On investit énormément dans ces véhicules. On investit aussi, je dois vous dire, on a créé une entreprise qui s'appelle Electrify Canada, où on investit dans les développements de parcs de recharge ultra rapide, parce qu'on croit vraiment, parce que juste avoir ces véhicules-là, les gens se posent la question, à quel point je vais pouvoir les recharger et tout ça.
Ouais.
À la maison, c'est sûr, mais bon, il faut arriver à développer ça. Donc, c'est là où on peut arriver avec les différents paliers de gouvernement, avec les différents investisseurs, avoir plusieurs discussions, parce que ça nous prend un réseau de recharge qui est important. Donc ça prend un certain nombre d'années, vous savez. Et donc l'électrique n'arrivera pas à prendre 50% du marché demain matin. Et pour revenir aux concessionnaires, ils sont très preneurs. Je dois vous dire que constamment, les concessionnaires du Québec nous demandent ces véhicules électriques-là. Ils sont très, très excités sur la possibilité de distribuer plus de véhicules électriques. Et oui, ils ont fait des investissements. Ils sont capables aujourd'hui, puisqu'on vend la e-Golf,
ouais.
Ils sont capables de d'offrir le service. Ils ont été, leurs techniciens ont été formés aussi, parce que travailler sur un véhicule électrique, il y a plusieurs normes, il y a plusieurs standards qui doivent être rencontrés. Donc, les concessionnaires, comme investisseurs aussi dans leur marché, ils sont preneurs et ils ont définitivement fait des investissements. Et vous allez voir aussi qu'on va continuer à les supporter dans ce sens, puisque, évidemment, on aura plus de véhicules électriques. Maintenant, je pense que ça va prendre un certain nombre d'années avant de se rendre là. Mais il faut y croire. Vous savez, ce que COVID nous a apporté, il y a bien des gens qui ont regardé qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a plusieurs municipalités qui ont fermé certaines routes ou certaines rues pour l'automobile. On a vu en Europe, d'ailleurs, la transformation vers l'électrique, ça a été souvent fait à travers les municipalités, d'abord et avant tout dans plusieurs pays. Là, les niveaux de gouvernement ont poussé. On apprécie certainement l'enthousiasme et l'engagement du gouvernement du Québec aussi envers ses politiques environnementales. Et on voit bien qu'il y a un désir de vouloir développer pour la société de demain. Et Volkswagen veut définitivement contribuer à sa façon, puisque c'est un objectif que nous avons à l'horizon 2040. Nous voulons être une entreprise qui est neutre en CO2. Quand je dis une entreprise qui est neutre en CO2, c'est pas uniquement nos véhicules, mais c'est l'ensemble de tout ce que l'on fait dans l'entreprise. Inclus,
toutes les opérations, là.
Les usines, etc.
Les opérations.
Ouais.
Vous savez, on avait une rencontre avec des employés, des collaborateurs il y a quelques mois, et on a pris des crédits pour le fait, parce que pendant 2-3 jours, on s'est réunis, on a eu, en se réunissant, tout ça, il y a des émanations de CO2 et tout ça. Donc, on a décidé de racheter des crédits. On prend beaucoup d'initiatives pour couper les plastiques. C'est des petites choses, mais vous savez, c'est des petites choses qu'on a tous une responsabilité. C'est bien de challenger les entreprises. On a une part de responsabilité, on les prend. On investit 33 milliards dans le développement de l'électrique. On investit une somme colossale aussi dans le développement des bornes de recharge ultra rapide. Nos concessionnaires le font aussi en même temps. On a tous, comme concitoyens, aussi une responsabilité pour arriver à faire cette transformation.
Même chose que chez Chrysler, finalement.
Pardon?
Même chose que chez Chrysler, finalement. qui viennent d'annoncer un moteur Hellcat dans un Ram. Là.
Voilà, c'est... voilà. Quelque chose de très vert.
C'est ouais. ça, c'est ça. Écoutez, moi, je vous dirais, l'avenir de Volkswagen est électrique. On l'entend beaucoup de gauche à droite. Mais au-delà de ça, si Volkswagen, à votre avis, devait améliorer un aspect aujourd'hui, ça serait quoi?
Bon, écoutez, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir continuellement faire mieux à écouter le consommateur. C'est certainement à écouter aussi nos partenaires d'affaires qui sont très près des consommateurs. Et ici, un élément dans lequel, encore une fois, je crois qu'on doit arriver à faire beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on a fait par le passé, c'est de développer cet environnement-là digital pour supporter l'environnement physique. La grande force qu'on a, c'est qu'on a un réseau où les gens peuvent compter sur des gens de leur communauté, de leur ville, de leur municipalité, pour des gens qui vont prendre soin de leurs besoins de mobilité. Donc, c'est très important. Mais en même temps, on doit arriver à offrir encore plus de facilité aux consommateurs, de transparence aux consommateurs. Donc, ça, c'est une chose, c'est une transformation dans laquelle on s'inscrit aussi avec nos partenaires au Canada, d'arriver à développer un environnement digital qui est beaucoup plus robuste. Et vous savez, je mets beaucoup d'emphase sur l'électrique. Ceci dit, on a encore beaucoup de véhicules très performants d'un point de vue de consommation d'essence qui sont disponibles dans l'instant T et qui seront disponibles pour les années à venir. Une fois de plus, on ne fera pas un saut de 100% vers l'électrique du jour au lendemain. La société devra suivre aussi. Et Volkswagen veut être un précurseur dans cette transformation. Mais en même temps, on aura toujours... Jusqu'à un certain point, jusqu'à un moment donné, on aura cette possibilité d'offrir des véhicules aussi très efficaces d'un point de vue consommation et de CO2, qui sont des véhicules à essence.
Il ne faut pas oublier non plus que la voiture qui a pratiquement mis Volkswagen au monde après la Beetle est toujours commercialisée, c'est la Golf. Ouais. Et ça demeure pour bien des gens le modèle fort de Volkswagen.
Surtout les Américains.
Oui, c'est tout. Non, les Américains beaucoup moins, mais la Golf a été... La Golf Absolument. Et la Jetta, ce sont deux Absolument. Produits qui sont connus de tout le monde depuis des décennies. Alors évidemment, il y a encore ces produits-là ont encore beaucoup d'importance sur le marché, en espérant évidemment que le marché ne les délaisse pas eux-mêmes, parce que le marché de la voiture compacte aussi, c'est pas un marché qui est évident. Monsieur Boutin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps, et bonne continuité, bonne route.
Bon succès chez Volkswagen.
Merci beaucoup, messieurs. Oui, merci beaucoup et bonne santé à tous les deux. Faites attention à vous. Puis merci pour tout le travail que vous faites sur le développement de l'automobile au Québec. C'est très apprécié. Et bon courage et bon succès de votre côté.
Grand merci. Au revoir.
Pour comprendre les dessous de l'industrie.
De 10 à 11.
Vous écoutez le Guide de l'auto. Cube Radio.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
La semaine passée, Antoine, on soulignait brièvement l'anniversaire du pionnier du métier qu'on pratique, ouais. C'est-à-dire de journaliste automobile. Et vous aurez deviné qu'il s'agit de Jacques Duval. Et cette semaine, tu as décidé de lui rendre hommage à ta manière.
Ben, en fait, j'ai écrit une petite chronique dans le Journal de Montréal pour rappeler à quel point c'était mon idole de jeunesse, etc. J'en ai parlé aussi avec Pierre Nantel hier à la radio de Cube parce que, lui faisait référence à ma chronique qu'il avait lue et voulait m'entendre à ce sujet-là. Donc, grosso modo, je racontais un peu mes premières rencontres avec Jacques Duval parce que, étant jeune, évidemment, moi, j'étais celui qui allait à la librairie le jour où le guide de l'auto sortait. J'achetais aussi le carnet de route en passant. Donc, je me procurais ces livres-là, je les lisais assidûment, j'apprenais les spécifications par cœur, et j'apprenais parfois des erreurs. Mais parce que comme il y en a malheureusement encore aujourd'hui, ça fait partie de la game. Mais Je lisais ça. Puis là, j'avais su, entre les branches, que Jacques Duval demeurait dans la même région que moi. Je demeurais à Iberville. Jacques Duval était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ça se faisait très bien à vélo. Et j'allais cogner chez lui assez souvent. Pour essayer de le rencontrer, mais puis j'étais j'avais 12 ans là. Mais c'est toujours sa femme qui répondait. Et puis Jacques était jamais là. Et j'ai jamais réussi à le voir comme ça. J'ai été cogné chez lui à plusieurs reprises. Je me souviens d'ailleurs, et ça m'avait marqué, que du coin de l'œil, j'étais capable d'observer une grande, grande collection de CD du fond du
salon.
Ah,
ben oui, parce qu'on sait que c'est un passionné de voitures, mais aussi de musique. Oui,
passionné c'était de musique française.
Sa première vie, finalement.
Sa première vie, parce qu'il a été disc-jockey, il avait fait le cimetière du disque.
Si tu le dis.
Ouais, bien avant que je naisse, donc bien avant que tu naisses, je te le confirme. Mais oui, avant d'être pilote, puis de faire le guide de l'auto et de faire prenez le volant, il était amateur de musique. Alors, toujours est-il que quelques années plus tard, je réussis à le rencontrer par l'entremise d'un ami. Sa mère a une marina et je la salue. Alors, la marina Saint-Tropez à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Une petite place charmante qui a été d'ailleurs complètement repensée, renouvelée par la fille de la propriétaire, Karine Roy, que je salue aussi. Bref, Jacques Duval était porte-parole d'un petit salon automobile qui avait lieu l'été à cette marina. Et c'est de cette façon-là que j'avais pu le rencontrer par l'intermédiaire d'un ami. Je m'étais mis à parler avec lui en bégayant, en ayant la mâchoire
décrochée. Parce que t'étais nerveux un peu, là. Nerveux, les mains étaient moites
bon
aussi,
sens,
là.
Ben oui. Et bon, je pense qu'il avait vu que j'avais un certain intérêt. Et Jacques Duval m'était à l'essai cette semaine-là une Passat TDI.
Et là, à ce moment-là, t'étais adolescent, fin de l'adolescence?
Ben là, j'ai 18 ans à peu près. Ouais, 18 ans, 19 ans autour de... Et c'est ça, il m'était à l'essai la Passat TDI.
Oui.
Et qui venait d'arriver chez nous, parce qu'avant, c'était des turbos diesel, mais là, c'est la Passat TDI, 90 chevaux. Et il m'invite à aller faire un tour avec lui dans la Passat, parce qu'il s'en va faire des petits tests d'accélération dans un rang de campagne pas loin de là, comme quoi on n'a pas toujours fait ça sur des circuits routiers.
Non.
Et puis,
mais avec une Passat de 90 chevaux...
Demande-moi si j'aurais aimé que ce soit une Porsche. Oui, mais ça aurait pu vraiment être autre chose, pire qu'une Passat, puis ça aurait été correct aussi.
Ça aurait été correct aussi.
Alors, c'était pas la question. Mais c'est intéressant, j'ai fait les tests d'accélération avec lui, il enregistre son chronomètre, puis moi j'ai dit, normalement, un test, on fait pas ça avec une personne à bord. Il dit, oui, mais ça change pas grand-chose. Là. Fait que moi, je débarque de la voiture, il fait deux tests comme ça, puis là, il y avait un temps de 0,4 secondes plus court. Fait que j'ai dit, ça a porté fruit que je débarque. Puis toujours est-il qu'on a jasé.
Il a vite compris que tu étais allumé. Là.
C'est ça. Puis que j'aimais voiture surtout. Puis il a pris mes coordonnées. Il m'a rappelé pour des participations au guide de l'auto par la suite, pour faire des fiches techniques du livre, pour participer à des matchs comparatifs. On a fait un match comparatif de petites sportives. On a fait un match comparatif de voitures de luxe, de petits VUS. Au fil des années, j'en ai fait plusieurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques Duval, ce qui m'a permis, par ricochet, bien sûr, de rencontrer Denis Duquet, de rencontrer Marc Lachapelle.
Oui, parce qu'une fois qu'on a un pied dans le milieu, on rencontre tout le monde assez rapidement
voilà. Puis
aussi.
J'avais rencontré Philippe Lagu aussi, qui contribuait au guide à cette époque-là. Alors, c'est vraiment à partir de cette période-là que j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Et comme Jacques Duval fêtait la semaine passée son 86e anniversaire, bien, j'ai cru bon de...
De le souligner.
Nécessairement lui rendre hommage, de lui souhaiter bonne fête puis de dire un gros merci pour cette contribution-là qui a peut-être pas été grand-chose pour lui, mais qui a été évidemment très importante pour moi. Voilà.
C'est ce qui clôt l'émission.
Alors,
on se dit à la semaine prochaine. On va avoir plus de détails
sur la Sienna et le
F-150. Donc, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir nous écouter la semaine prochaine aussi.
Bonne semaine.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.